17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui avec Raphaël Abouhem Alde. Bonjour Raphaël, merci d'être parmi nous.
Bonjour, merci, merci.
Alors, vous êtes un des dirigeants d'une très grande multinationale commerciale Afrique, directeur commercial Afrique de la société Jean Négri et Fils, et promoteur du journal panafricain Signature.
Exactement.
L'Afrique n'a jamais été autant au devant de la scène. Mais pour autant, est-ce que les Africains sont maîtres de leur destin? Ça va être la question qu'on va vous poser pendant toute cette émission. Et vous allez nous renseigner sur l'actualité en même temps de la diaspora, puisque je crois que vous-même, vous êtes d'origine camerounaise,
oui,
et que vous êtes un peu partout en Afrique.
Oui.
Et votre credo, c'est de faire avancer l'Afrique d'un point de vue de la valeur ajoutée, de l'entreprise, du commerce, pour un mieux vivre des Africains et arrêter peut-être ce déluge d'immigration, de réfugiés, cette espèce d'hémorragie que ce continent merveilleux connaît depuis des décennies, voire des siècles. Alors, Raphaël, on dit, je vais vous donner quelques mots-clés, l'Afrique berceau de l'humanité, ça vous dit quoi à vous?
C'est ce qui est réel, mais est-ce que le reste du monde traite donc ce berceau de l'humanité avec tout le respect qu'il mérite? C'est là où se pose la question.
On peut dire aussi que les autres régions du monde aussi sont des berceaux de l'humanité. C'est une espèce comme ça de choses qu'on répète, une rhétorique, comme si on voulait faire plaisir aux Africains, alors que finalement, l'humanité, elle est partout.
L'humanité, elle est partout, mais aujourd'hui, les Africains n'ont plus besoin qu'on les flatte, qu'on les caresse dans le sens du poil. Les Africains ont besoin qu'on les respecte. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit.
Comme tout un chacun.
Comme tout un chacun, mais il se trouve que pendant des décennies, pour des raisons que nous, on peut ignorer, nos parents n'ont pas été respectés. Et aujourd'hui, la nouvelle génération des Africains...
Je pense qu'il n'y a pas que les parents, il y a les grands-parents, les arrière-grands-parents. On va remonter très loin.
On
va y revenir. L'Afrique, c'est ce continent de coup d'État permanent. Qu'est-ce que vous dites à ça?
L'Afrique, c'est le continent du coup d'État permanent. Oui, ça a des raisons. Les raisons sont un peu simples, c'est que les pays occidentaux ont toujours mis à la tête des
États
africains.
C'est la faute de l'autre?
Oui, aujourd'hui...
Le coup d'État permanent de l'Africain, c'est toujours la faute de l'autre?
Le coup d'État permanent, c'est la faute de l'autre parce que c'est l'autre qui impose des individus qui n'ont pas le soutien de leur peuple. Et quand des loups solitaires réussissent à faire des coups de force, chasser ceux qui ont été imposés par les autres, on appelle ça le coup d'État, mais on va simplement dire que
les populations africaines ne possèdent pas en elles-mêmes un vivier qui pourrait faire en sorte que,
mais
peu importe comment on l'appelle, une démocratie, l'Afrique recèle en son sein une richesse qui pourrait faire qu'elle pourrait être autonome et autodidacte, démocrate.
Mais Monsieur Nasser, vous avez donc actuellement dans certains pays africains la réponse à votre question. Regardez au Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Le peuple, la population s'est levée contre le président Keïta qui était là. Il y a eu des manifestations de rue pendant des semaines. Et puis, les politiques sont restés sourds aux revendications du peuple. Et puis, des jeunes militaires, des jeunes officiers ont pris leurs responsabilités par amour pour leur pays. On fait partie du président.
Pour préserver du chaos, on prend le pouvoir?
Non, pas pour préserver du chaos. Pourquoi le chaos? Est-ce qu'il y a le chaos?
Mais vous dites, non, vous dites parce que les politiques n'arrivaient pas à prendre leurs responsabilités.
Non, les politiques qui soutiennent certains chefs d'État en Afrique n'ont pas pris les responsabilités en disant, on se rend compte du fait que le peuple ne vous soutient plus. Par conséquent, nous également, on vous retire notre soutien. Ils ne l'ont pas fait. Et les jeunes militaires qui sont considérés comme des patriotes ont pris leurs responsabilités. Ils ont fait partie de leur pouvoir. Il faut même constater qu'on évolue. Parce que avant, quand les coups d'État se faisaient, il y a des gens qui se faisaient assassiner. Mais aujourd'hui, l'évolution de la vie, le fait que la nouvelle génération ait étudié en Occident, ont quand même des valeurs, le respect de la vie humaine. On ne voit plus les chefs d'État après un coup d'État qui sont assassinés. On les prend,
on voit quand même des manifestants assassinés. Tué par balle réelle,
Mais vous savez comme moi que Même ici en France, quand il y a des manifestations, on a vu pendant les Gilets jaunes, vous avez vu des gens qui sont sortis des manifestations avec des œufs à mocher. Donc il y a des épiphénomènes comme ça lors des grands mouvements qu'on ne peut pas toujours contrôler. Mais ça n'enlève rien au fait que aujourd'hui, le Mali est calme. On ne voit plus les gens dans les rues. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer que quand les militaires font un coup d'État, le peuple va sortir. Mais là, c'est l'inverse.
Alors justement, le Mali.
C'est l'inverse qui se produit.
Le Mali, Macron, on lui a dit, c'est pas le moment de venir. C'est quoi? C'est Covid, pas Covid? C'est quoi la raison?
Non, simplement.
On peut
le dire sans faire langue de bois. C'est la preuve aujourd'hui que la nouvelle génération ne veut plus se laisser marcher dessus. Pour que vous veniez chez moi, il faut que je vous invite. C'est la base même.
C'est pas toi qui décide.
Je ne peux pas m'inviter chez vous. Pour que je vienne à cette émission, il a fallu que, à la base, que vous m'ayez invité. N'est-ce pas? Je n'aurais pas pu venir me pointer et
alors,
tout seul.
Justement, non. C'est intéressant ce que vous dites parce que, bon, bien sûr, ça, on va tout de suite à la France-Afrique, mais les prédateurs sont partout. Il y a la Chine-Afrique. Il y a la Turquie-Afrique, il y a les États-Unis-Afrique, pour pas parler d'autres pays comme le Maroc ou autre. Je veux dire que l'Afrique devient un enjeu, un objet de convoitise. Ça vous inspire quoi? On sort d'une hégémonie pour sortir
le président, dans l'autre. Le président Biya, un jour dans l'un de ses discours, avait dit à son peuple, le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Les gens n'ont pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Il essayait d'expliquer qu'il faut qu'on sorte de ce monopole dans lequel on a été enfermé avec la France, où ils avaient la priorité sur toutes
mais
nos matières.
Mais pour plonger dans un autre monopole ?
Non, laissez-moi finir. Après, ça dépend de la manière dont on négocie. C'est du commerce. Quand vous avez un produit, il y a les demandeurs, vous vous vendez au plus offrant. Et c'est comme ça qu'on peut se développer. Aujourd'hui, les chefs d'État africains se sont dit on va essayer de vendre ce que nous avons le mieux possible pour l'intérêt de nos populations. Donc, est-ce qu'on doit remettre ça en cause? Non. Après, la manière dont on négocie avec nos partenaires, c'est là où il y a la différence. Mais à la base, on doit toujours être confortable,
alors,
avoir un choix.
Expliquez-moi à Raphaël Abouhem Adé, qui est directeur commercial Afrique, c'est Negri et fils. Expliquez-moi pourquoi autant de gens ont envie d'investir en Afrique, on les a cités à l'instant, mais pourquoi les inégalités demeurent, les fractures demeurent, comme les fractures numériques, l'alphabétisation est en retard, l'égalité homme-femme est en retard, le numérique a du mal à s'installer, les pandémies, le Covid fait des ravages, le réchauffement climatique, c'est une catastrophe. Alors, au Sénégal, il y a l'avancée du désert qui est impressionnante.
Oui, mais
comment, d'un côté, on a tous ces prédateurs qui disent à l'Afrique, je t'aime, je t'adore, et de l'autre côté, les inégalités demeurent. Qu'est-ce qui se passe?
Je vais vous dire les choses qui vont vous surprendre. Je disais, il n'y a pas très longtemps, sur une émission de télé, moi j'ai l'avantage d'être sur le terrain, et il y a des choses que je peux vous dire avec conviction. Ça va vous paraître bizarre, mais je vais vous dire qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire, je paye Internet moins cher que quand je suis en France. Internet coûte moins cher au Cameroun qu'en France. Je peux vous dire qu'au Cameroun, le nombre de personnes qui utilisent le téléphone portable sur Internet, je pense que si on fait le ratio avec un pays qui est développé comme la France, je pense qu'au Cameroun, vous allez réaliser qu'il y a plus de gens qui utilisent le téléphone portable sur Internet que vous n'avez en France.
Ils sont des consommateurs.
Mais bien sûr.
Mais est-ce qu'ils sont dans la richesse? Est-ce qu'ils sont dans la production? Est-ce qu'ils sont dans l'entreprise?
Là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat.
Sont dans les start-up.
Vous savez,
on leur donne des portables pour téléphoner, donc ils consomment.
Ils consomment. Oui, je suis d'accord avec vous.
Mais est-ce que je suis d'accord avec vous.
Mais vous savez, c'est là où nous, la nouvelle génération, on doit jouer notre rôle. On doit amener nos dirigeants à industrialiser nos pays.
Quelle capacité vous avez?
Alors, nous avons les capacités parce que aujourd'hui l'argent, on sait où on peut le trouver. Vous savez, avant c'est l'argent qu'on ne trouvait pas, mais aujourd'hui malheureusement l'argent il y en a partout. Je crois que il y a même un manque de projets maturés, parce que ce qui fait le problème en Afrique, c'est que les gens ont des projets, ils ne prennent pas le temps de les maturer. Et quand ils arrivent devant les bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds, ils leur disent, nous, on a de l'argent pour ce projet qui est intéressant, mais le dossier que vous nous présentez n'est pas prêt. Ce projet n'est pas prêt à démarrer. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons avec les États avec lesquels nous travaillons, nous leur amenons d'abord à maturer les projets avant de les présenter. Je peux vous assurer que quand vous êtes dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, vous allez voir les bailleurs de fonds, ils font la queue. Les hôtels sont pleins. Ils ont l'argent à investir. Mais ce qui manque en face, c'est des projets matures. Et je pense maintenant que c'est les politiques de chaque État qui doivent être mises en place, qui doivent structurer quelles sont les priorités par rapport aux besoins intérieurs de leur pays pour industrialiser leur pays. On ne peut plus vivre dans les importations qui font le déséquilibre de nos balances commerciales.
Elles sont coordonnées par qui? Par l'OCDE, par le FMI? Elles sont coordonnées par qui, ces politiques des États?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, à un moment, le FMI a même en fonction des priorités de ses bailleurs imposé un certain calendrier aux États africains. Moi, je peux vous le dire avec conviction parce que j'ai un frère aujourd'hui, c'est lui, Monsieur Serge Abouem. Il est conseiller technique numéro 2 du ministre des Finances au Cameroun. C'est lui qui est en front office des discussions avec le Fonds monétaire international. Et il me disait l'autre jour, on est arrivé aujourd'hui à un niveau où c'est nous qui leur disons, écoutez, messieurs, votre argent, vous pouvez rentrer avec. Mais nos priorités, c'est nous qui savons quelles sont nos priorités. Vous ne pouvez pas ici venir nous imposer ce que vous voulez. Parce que c'est arrivé à un point où parfois, les multinationales ont des projets. Ils ont de l'argent à investir. En amont, ils s'arrangent avec les gens du FMI. Et c'est leur projet qu'on vient imposer. Parfois, même quand le projet n'a pas une réelle utilité dans l'immédiat pour le pays.
Alors justement, on va en venir dans un instant justement à votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait justement pour que les peuples puissent bénéficier de la richesse que vous fabriquez? À tout de suite.
Alors,
les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, avec Raphaël Abouem Aldé, notre grand témoin d'aujourd'hui, qui est directeur commercial Afrique de la société Negri et Fils, et en même temps promoteur du journal panafricain Signature. Donc cette société qui est une multinationale, vous êtes basée à Fos-sur-Mer.
Oui, tout à fait.
Et cette société, vous allez nous expliquer un peu ce qu'elle fait, sa nature, son développement, et puis nous dire aussi, par rapport à ce que vous disiez précédemment, est-ce que, par exemple, l'apparition du ZLECAF, qui est une zone de libre-échange continentale africaine qui touche 34 pays, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens de votre développement et de vos ambitions?
Alors, je veux présenter la société Negri est une société centenaire. C'est une société qui est spécialiste des travaux maritimes, qui construit des postes d'accostage et qui fait aussi dans les entretiens des quais. À titre d'exemple, en France, par exemple, c'est nous qui faisons l'entretien des quais du port de Marseille depuis 10 ans. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Défense. C'est nous qui construisons les postes d'accostage pour le ministère de la Défense. En ce moment, nous sommes en train de faire un gros chantier à Toulon pour le ministère pour la Marine nationale. Donc la société Negri est une société très connue. D'ailleurs,
j'ai vu aussi que vous étiez dans les sous-marins.
Oui, tout à fait. Nous faisons les
sous-marins
postes,
quoi, de surveillance militaire ou écologique, environnement.
On fait les postes d'accostage ou accostent les sous-marins. Bon, c'est des choses qui sont très confidentielles, qu'on n'a pas le droit de trop parler.
Bien parce sûr.
Que c'est secret défense.
Secret défense.
Secret défense. Mais je voulais juste dire par là qu'on est une société qui est très connue, très cotée. On construit.
Alors, grosso modo, c'est combien d'employés, le chiffre d'affaires et les pays dans lesquels elle intervient?
Alors, les pays dans lesquels nous travaillons, pour dire les grands travaux que nous faisons en ce moment, nous faisons des grands travaux à Toulon. Nous sommes en train de construire le terminal pétrolier, le nouveau terminal pétrolier à Djibouti, qui est un projet de
Djibouti sens, qui est une base militaire française.
Où il y a une base militaire française, il y a une base militaire américaine, il y a une base militaire chinoise. Nous sommes en train de construire un terminal pétrolier, un projet de 200 millions d'euros. Nous venons de terminer avec notre partenaire Somagec, qui est la première société de travaux maritimes africaine. Nous sommes en train de terminer l'élévateur à bateau pour le roi du Maroc au port de Casablanca, qui est un projet de 200 millions d'euros. Nous venons de terminer le terminal pétrolier au port de Douala, qui a été inauguré par le premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons entamé un deuxième projet, la construction du terminal du parc à bois, qui est un terminal à travers lequel on exporte tout le bois de l'Afrique centrale. Par l'Europe, c'est nous qui sommes en train de faire ce nouveau terminal. Et là, nous venons de gagner un appel d'offres pour le prolongement du terminal à conteneurs qui exploitait Bolloré avant que son contrat ne finisse. Donc, nous avons aujourd'hui la confiance de nos partenaires parce que la qualité du travail que nous faisons sur tous les chantiers où nous travaillons, il y a zéro réclamation.
Bon, j'imagine que c'est plusieurs milliers d'employés.
Plusieurs milliers d'employés. Et il faut remarquer que le débat que nous avions l'autre jour, l'apport que la diaspora aujourd'hui a en Afrique, c'est que moi, par exemple, lors de la signature des contrats, j'impose à la société Negri de faire ce qu'on appelle le transfert de compétences. Parce que j'estime que quand nous avons fini de construire un ouvrage, les pays qui nous font confiance ne sont plus obligés de faire appel à nous pour venir gérer la maintenance de ces ouvrages. Donc, pendant que nous construisons, nous intégrons les nationaux, on les forme.
Ça, c'est l'adage permanent. On donne pas du poisson, on apprend à pêcher.
Voilà.
C'est ça. Et en plus, vous apprenez à pêcher aux gens de la diaspora, parce que vous m'avez précédé, mais je voulais aborder cette histoire de diaspora. Vous êtes membre de la diaspora,
tout à fait.
Et vous avez voulu à la fois concilier le fait que vous soyez européen, français, mais en même temps camerounais, congolais, etc. Vous êtes aussi un Africain, et c'est cette richesse que vous voulez valoriser avec, entre autres,
Je peux vous dire que ça marche très bien, et c'est là où est le fondement de notre nouvelle philosophie.
Alors, donnez-nous des exemples de transfert de compétences, justement. Par exemple, vous achevez un ouvrage. Comment ça se passe pour le transfert de compétences?
Non, en fait, ce qu'on appelle le transfert de compétences, c'est un langage. C'est dans sa globalité. En fait, le transfert de compétences commence dès le premier jour où on fait la pause de la première.
En amont.
Vous savez, les Chinois, par exemple, quand ils font des ouvrages, quand ils ont des opérations clés, ils les font la nuit à l'abri des regards. Ça fait que les locaux ne sauront jamais le reproduire parce qu'ils n'ont pas assisté à la manière dont ça a été fait. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on forme notre personnel. On travaille avec eux. Nos ingénieurs sont à leur côté. Si vous allez même sur Internet, vous allez voir des chaînes de télévision qui sont venues filmer notre chantier en cours. Ils ont vu comment il y a une parfaite symbiose entre les expatriés et les locaux. Comment se fait le transfert? Chaque fois qu'il y a des opérations, ils jouent un rôle de pédagogue. Ils font de la pédagogie tout en faisant avancer le chantier. Ça fait que quand on a fait 24 mois sur un chantier, toute l'équipe des locaux qui ont travaillé dans la construction de cet ouvrage ont assez de bagages pour pouvoir assurer la maintenance, parce que non seulement ils ont appris de façon pratique lors de la construction, ils ont aussi eu des explications théoriques. Et ils sortent de là avec un vrai bagage.
Donc pour vous, c'est la seule façon d'arriver à une indépendance réelle des pays africains, à une autonomie de ces pays. C'est la seule façon d'y arriver.
Mais c'est la seule façon d'y arriver. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir. Nous avons livré le terminal pétrolier au port de Douala. Il fonctionne parfaitement, les tankers accostent tous les jours. Et on ne s'en occupe plus, mais parce qu'on a formé des Camerounais aujourd'hui qui travaillent en toute autonomie sur ces terminales, parce qu'ils ont appris. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'ils n'auront plus besoin de la société Negri, même pour faire la maintenance, les petites réparations, parce que maintenant,
alors,
ils savent le faire.
Est-ce que, par exemple, le COMESA, le marché commun africain, ou le ZLECAF, la zone de libre-échange, est-ce que ce sont des choses, des organismes qui vont dans le bon sens pour que justement les Africains se prennent en charge, et notamment, bon, on a aussi le franc CFA, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a la possibilité aussi de produire une réelle monnaie africaine, et tout ça, Est-ce que c'est possible dans un continent où il y a autant de pays divisés, en contradiction, opposés, où il y a des modèles différents comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, ou le Cameroun, ou la Mauritanie qui sont différents? Comment c'est possible?
Je crois que là, c'est plus une décision politique économique. Et quand on dit décision politique économique, ça veut dire que si les chefs d'État des zones économiques se mettent d'accord, ils ont la capacité d'imposer à leur peuple, parce qu'ils sont élus pour ça, pour prendre des décisions. Et on estime que les décisions qu'ils prennent sont bonnes pour le peuple. Mais pour revenir aux zones de libre-échange, je pense que le gros problème qu'il y a aujourd'hui, Monsieur Kétan, c'est que la nouvelle génération des Africains ont le sentiment que leurs parents ont été beaucoup trompés. On ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, ce que nous on demande, c'est qu'on soit respecté. Et qu'on ait des rapports d'égal à égal. C'est tout. Dès le moment où ça va être mis en place, dès le moment où nos amis, nous allons l'accepter. Quand je dis nous, je veux dire nous les Français. Dès le moment où nous allons accepter que quand nous allons en Afrique, on ne va pas, en tant que donneur de leçons, on va rencontrer des potentiels partenaires.
D'accord, mais
ça va se passer très
d'égal
bien.
À égal, pardon, d'égal à égal, ça veut dire payer les matières premières au prix réel.
Au prix réel.
Arrêter les exploitations qui sont contraires à la politique du pays ou à l'écologie du pays.
Imposer même sa culture, vouloir même imposer sa culture. Je vais vous prendre un exemple. Un pays comme le Cameroun, l'homosexualité est interdite. Elle est même pénalement condamnée. C'est leur tradition, c'est leur culture. Ils ne sont pas encore prêts à accepter l'homosexualité. Pourquoi l'Occident travaille à vouloir leur imposer ça? C'est autant de choses qui créent une frustration parce que les gens se disent, vous vous faites chez vous ce que vous voulez, ça ne nous regarde pas, laissez-nous vivre comme ça nous convient. Nous, on vous demande juste de respecter notre façon de vivre. C'est des petites choses comme ça qui font que il y a des frustrations qui grandissent et qui se développent. Moi, je peux vous assurer, je vais vous raconter une anecdote. Je me suis retrouvé à un appel d'offres avec des sociétés, des multinationales concurrentes, européennes, belges, néerlandaises, italiennes, allemandes. Et un ministre qui coordonnait cet appel d'offres, il m'a appelé à son bureau. Il me dit, monsieur le directeur, vous savez pourquoi on va vous donner ce contrat? Je lui dis non. Il dit parce que votre directeur général a eu l'intelligence de vous mettre face à nous. Regardez toutes les autres sociétés, il n'avait que des blancs. Avec vous, on peut parler. Avec vous, on peut discuter. On sait que vous allez nous respecter parce que nous sommes vos parents. Je peux vous assurer que, vu comme ça, les gens ne se rendent pas compte de l'importance. Parce que aujourd'hui, les gens sont braqués. Les gens arrivent à un point, ils se disent, nous, on voudrait avoir un réel retour de ce qu'on donne. Et quand on a en face de nous quelqu'un avec qui on peut se comprendre, c'est plus simple et on préfère traiter avec lui, même s'il est plus cher.
D'accord, Raphaël, mais vous parlez à l'instant de l'homosexualité. C'est au-delà de l'homosexualité. C'est peut-être aussi des critères internationaux qui sont les respects des minorités, la lutte contre la discrimination, l'égalité homme-femme. C'est un cadre général. C'est pas l'homosexualité en tant que telle.
Excusez-moi,
c'est respecter mais, les minorités.
Mais monsieur Kétan, moi je fais pas de la politique. Vous savez, monsieur Kétan, moi je fais pas de la politique. Je fais pas,
c'est
de,
pas
la politique.
De la politique.
Je fais pas de,
c'est
la politique.
Pas de la politique.
Je suis en train de vous dire qu'au Cameroun, je vous prends un exemple. Ça c'est un langage des Occidentaux. Vous savez, quand vous allez dans les pays comme l'Algérie, les Kabyles n'ont pas les problèmes avec les autres. Ils vivent normalement. C'est les autres qui viennent et qui veulent voir des divisions, qui veulent voir certaines personnes. Non, les gens, ils vivent normalement. Les gens, ils ont leur culture, leur tradition. Quand nous, on vient, la seule chose qu'ils nous demandent, c'est qu'on respecte leur façon de vivre. Point barre. Le jour où nous allons, nous les Français, on va apprendre à ne plus nous mêler de la politique des autres. Nous n'allons plus nous mêler de comment les autres doivent s'asseoir dans leur maison, comment ils doivent épouser leur femme. Je peux vous assurer que...
Non, mais ça, c'est le privé. On ne rentre pas.
Non,
on ne rentre pas dans les choses privées.
Parce que, vous savez, la culture,
mais
elle évolue. Une
femme doit avoir le même salaire qu'un homme, vous êtes d'accord ?
Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que...
C'est pas un problème d'hégémonie politique ou voilà, c'est quand même des choses normales.
Monsieur Kétan,
les enfants ne doivent pas travailler.
Mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous.
C'est des critères quand même internationaux.
Est-ce que vous croyez que les pays africains ne luttent pas contre ça ?
Bien sûr.
Mais bien sûr qu'ils luttent contre ça.
L'alphabétisation.
Le problème.
La lutte contre
Le problème, c'est que quand l'Occident parle de l'Afrique, ils ne disent que ce qui est négatif. Ils ne parlent pas de ce qui est positif.
On est d'accord.
Ça fait partie du problème.
À tout de suite.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM.
Avec Raphaël Abouhème, Aldé, directeur commercial Afrique de Negri et Fils. Alors, Raphaël, je sais que vous êtes un sportif, donc on va parler de sport. Et on va parler aussi de diaspora pour terminer. Et puis vous allez essayer de dégager des pistes pour justement pour que ce pays rentre dans la cour des grands, ce continent qui est déjà dans la cour des grands, mais que ce soit suivi des faits. Alors, on va parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le trophée de la CAN est fabriqué en Italie. Le ballon de la CAN est fabriqué en Angleterre. Les sponsors de la CAN sont français. Les stades de la CAN ont été construits par les Chinois, les Italiens, les Turcs et les Canadiens. Les équipementiers des sélections qui joueront la CAN sont français, anglais ou américains. Le diffuseur de la CAN est français. Les joueurs qui joueront la CAN appartiennent à des clubs français, anglais, allemands et autres. Les bus qui transportent les joueurs pendant la CAN sont japonais. Et même le sifflet de la CAN n'est pas africain. Alors, et vous demandez pourquoi on méprise l'Afrique et les Africains. Ça vous inspire quoi, ça ?
Ça m'inspire que tout ce que vous dites là est vrai, mais il y a un début à tout. Je pense que nous allons faire une autre révolution. Vous savez, l'Europe n'est pas devenue le continent qu'il est en un jour. Eux aussi, ils ont eu leur frustration. Ils ont eu aussi leur moment de galère. Nous, on est en train de gérer la nôtre et on va s'en sortir. Pourquoi nous avons de l'espoir ? Moi, avant de venir, vous savez, il y a eu élection à la Fédération Camerounaise de football. Je suis passé sur les plateaux télé et j'ai expliqué pourquoi, à mon humble avis, les électeurs, les délégués, ils sont 76, devaient voter Monsieur Samuel Eto'o. Et je leur expliquais que le monde, aujourd'hui, est violent. Il est basé sur les rapports de force. Avoir Samuel Eto'o président de la Fédération Camerounaise de football, ce sera une bénédiction pour le Cameroun, le continent africain, parce que il connaît bien la maison CAF, il maîtrise la FIFA, il connaît personnellement Gianni Infantino. Ça va nous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, juste une semaine après son élection, on commence à voir donc les résultats et l'avantage d'avoir une personnalité africaine forte comme Samuel Eto'o, parce que vous savez que la FIFA a essayé de repousser la Coupe d'Afrique au mois de juin, et M. Samuel Eto'o a pris son téléphone. Il a fait un lobbying auprès de tous les présidents de fédération et ils ont mis un fin de non-recevoir au président de la FIFA. Voilà ce qui se fait aujourd'hui. Quelqu'un d'autre n'aurait pas pu. Mais pourquoi Samuel Eto'o a la capacité de le faire ? Mais parce qu'il connaît bien le fonctionnement de ses maisons. Il a joué en Europe, il a eu des contrats en Europe, il connaît les dirigeants, il connaît leur mentalité. Il a clairement dit dans les médias, même ici en France, que l'idée de ramener la CAN de janvier à juin, c'est pour rendre service aux clubs riches de l'Europe et ce n'est pas pour défendre les intérêts de l'Afrique. Et ça, c'est inacceptable. Vous voyez ? Mais si c'était quelqu'un d'autre, il n'aurait pas pu le faire. Et c'est pour ça que je vous dis, les choses vont changer. On va à notre rythme lentement, mais sûrement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui commencent à créer les marques de vêtements, qui commencent à créer les marques de chaussures, qui commencent à créer les marques d'équipements sportifs. Il y en a déjà. Et il y en a même qui vont faire leur promotion pendant la CAN. Vous savez, Adidas, Puma, Nike, sans leur faire la publicité, ils sont pas devenus du jour au lendemain des marques qui sont aujourd'hui. Il leur a fallu du temps. Et je pense que les jeunes Africains, les designers, les stylistes, ils vont faire leur temps. Et vous voyez, il y a même une forme de révolution qui est en train de se faire. Regardez aujourd'hui comment la plupart des jeunes cadres en Afrique s'habillent. Ils ne sont plus en costume trois pièces comme moi. Non, non. Ils portent les ce qu'on appelle les sahéliennes. Même dans leur tenue, les gens commencent à dire, nous allons changer. Donc, on ne perd pas espoir.
Alors, revenons au diaspora. C'est quelque chose qui vous tient au cœur. Il y a eu le sommet de Montpellier sur les diasporas, où beaucoup de diasporas, je crois que c'était presque 2000, qui étaient invités en France. Et il y a eu récemment, le Congo a organisé le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Donc les choses avancent pour vous. Est-ce que la diaspora, c'est vraiment une des clés du développement du continent ?
La diaspora, c'est la clé, pas l'une, c'est la clé du développement du continent africain. Quand l'Europe a dû se reconstruire, où est-ce qu'elle allait chercher la main-d'œuvre ? En Afrique. Et pourquoi vous pensez que la diaspora africaine ne doit pas faire le chemin inverse pour aller développer le continent dont ils sont originaires ? Non, je prends mon exemple. Aujourd'hui, ce que je fais en Afrique, ce que je propose en Afrique, ce n'est que moi, parce que je viens de là, qui aurait pu proposer l'offre que nous proposons. Et c'est ce pourquoi je milite en disant à tous les jeunes d'origine africaine qui occupent les postes stratégiques dans des organismes qu'ils pensent à défendre les intérêts de leur pays d'adoption et de leur pays d'origine. Ce n'est que comme ça qu'on peut être bien dans sa peau. Moi, aujourd'hui, je suis fier parce que je défends les intérêts de la France à travers la société Negri. Et je défends également les intérêts des pays africains où je travaille. Nous travaillons en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun. Et quand je rentre le soir, j'ai le sentiment d'avoir fait mon devoir. Parce que mes interlocuteurs en face me regardent, me disent, monsieur le directeur, merci pour le travail et la qualité du travail que vous faites. Les gens vous respectent parce qu'ils n'ont pas le sentiment que vous leur volez. Dès le moment où les gens ont le sentiment que vous leur volez, et c'est le sentiment, malheureusement, qui a été beaucoup ressenti parce que dans l'élaboration des contrats, les clauses qui étaient mises défavorisaient énormément les pays africains. Et à un moment, quand les gens qui sont venus se former ici ont eu ces contrats en main, ils passent sur des plateaux télé, ils nous prennent pour des voleurs. Et c'est ce qui ne doit plus se faire. Si jamais on commence à avoir des relations dans le sens du business qui sont basées sur le respect de nos partenaires, je peux vous assurer que la France va regagner ses lettres de noblesse en Afrique.
Justement, vous n'êtes pas sans ignorer la grande vague de xénophobie qui a envahi le monde, mais surtout l'Europe, où on parle de murs, d'ériger des murs, de refaire un Schengen 2-3, de durcir les conditions d'immigration. On voit beaucoup de réfugiés africains qui traversent le désert, qui meurent dans le désert, qui meurent en Méditerranée, qui meurent à Calais. On voit tout ça. Donc, par rapport à tout ça, vous êtes aussi dans la logique de dire que, justement, ce que vous venez de développer à l'instant, ça permettrait aux Africains de rester chez eux, comme on l'entend ici et là.
Mais je peux vous assurer que les jeunes Africains qui viennent, ils viennent juste chercher de l'emploi. Si cet emploi, vous le leur donnez chez eux, ils n'auront pas besoin de sortir. C'est aussi simple que ça. Et je pense que les dirigeants ont pris conscience de ça. Et vu comment ça va vite, parce que la jeunesse aujourd'hui qui est essentiellement numérisée, est très active même sur le plan politique. Et les chefs d'État se sont rendus compte qu'ils ne sont plus sur des fauteuils en or où ils étaient inamovibles. Aujourd'hui, la fonction de chef d'État en Afrique est devenue essentiellement précaire parce que les coups d'État, ça va très vite. Donc, les jeunes sont beaucoup plus écoutés. Hein? On a vu certains chefs d'État parler du numérique à la jeunesse. Ça veut dire qu'ils sont maintenant à l'écoute plus qu'ils ne l'étaient parce que les choses ont changé. Le monde ne sera plus ce qu'il était avant le numérique.
On arrive à la fin de cette émission. Deux petites questions. Qui a dit l'Afrique aux Africains ?
L'Afrique aux Africains, je crois, c'est Oufo Boigny, non ? Si je ne me trompe pas.
Il y a très très longtemps. Le grand chef Massinissa. le roi berbère Massinissa, qui a lutté contre Rome, qui a vécu près de 90 ans, qui a fondé l'empire Amazir berbère d'Afrique, d'Afrique du Nord, et c'est lui qui a dit l'Afrique aux Africains. Okay. D'où vient le mot Afrique, Africa?
Vous savez,
c'est une question, hein.
Le Maghreb a été une source d'inspiration sur le plan politique et même sur le plan de l'éthique des dirigeants. Moi, je me rappelle le célèbre président algérien, Ouari Boumediene, quand il est mort, on a trouvé 0 franc dans ses comptes bancaires. Il était président de la République et il est mort pauvre. C'est ce à quoi on rêve aujourd'hui, de voir nos dirigeants qui sont pauvres, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils aiment leur peuple. C'est ça à quoi on aspire, c'est ça à quoi là. On n'interdit pas nos chefs de bien vivre parce qu'ils sont les élus du peuple, mais qu'ils aiment le peuple, qu'ils ne prennent pas toutes nos richesses pour venir mettre à l'Occident pendant qu'il manque des écoles, l'eau potable, la lumière.
Le mot Africa, le continent, d'où vient ce mot Afrique, Africa?
Alors vous me posez une colle là.
Je vais vous répondre.
Oui, répondez-moi.
Africa, c'est le nom d'une déesse berbère, Amazir, encore une fois, qui a donné son nom au continent, qui vient d'une tribu en Libye actuelle, qui était en libyque, qui a un nom à consonance qui voulait dire le vent. Et aujourd'hui, une de ses descendantes, c'est Thieliel, l'ogresse, dans la mythologie berbère, l'ogresse qui mange les enfants, etc. C'est sa descendante et qui est en même temps, par analogie, la femme de Zeus, Héra, de la mythologie gréco-romaine. Bon, j'ai terminé avec les deux questions. On termine par vous, Raphaël. Qu'est-ce que vous voudriez donner comme piste d'espoir? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes Africains? On sent votre amour d'Afrique. Vous portez l'Afrique dans votre cœur. Ça se sent très fort, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de passion. Quel message vous voudriez passer là, sur Beurre FM? Et qui sera évidemment relayé à travers l'ensemble de nos médias.
Alors, si vous me permettez, je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui est révélatrice de l'image que ceux qui nous regardent ont de nous. Je suis arrivé à ma résidence et mes voisins sont arrivés, puisque je travaille à l'étranger, je ne suis jamais là, et ils m'ont demandé si j'étais le vigile qui venait surveiller les travaux de la maison. Naturellement, je suis black, costaud. Alors, une maison comme celle-là, je ne peux pas être propriétaire. Je suis fatalement le vigile. Et je leur ai dit non, je suis le nouveau propriétaire. Et la question qu'ils m'ont posée, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je leur ai répondu, rassurez-vous, je ne suis pas un dealer. Avant-hier, la société qui vient faire l'entretien du jardin, je suis entré par... ils étaient derrière, je suis rentré par la porte, je suis monté à l'étage et je me suis mis au balcon. Ils m'ont demandé si j'étais l'agent d'entretien d'intérieur. Parce que je suis black. Naturellement, je ne peux pas être propriétaire de cette maison. Fatalement, je suis un ouvrier. Voilà. Et je leur ai dit non, je suis le propriétaire. Ils étaient très étonnés. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que l'image que nous donnons, l'image que nous avons souvent donnée, à amener les gens à ne pas nous respecter. Nous devons travailler sur notre image. Ce que je veux dire aux jeunes Africains, c'est qu'il faut qu'ils se fassent respecter, pas par la violence, mais par leur comportement, par leur travail, par leur sérieux, et par le respect de leur pays d'accueil et de leur pays d'origine. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que quand tous les jours, dans les médias, quand on doit parler de la diaspora, on parle de la diaspora que sur les faits divers, ça n'améliore pas notre image. Or, aujourd'hui, nous avons démontré que nous sommes capables. La preuve, regardez ce que vous avez réalisé. Merci. Mais nous avons un problème d'image. Il faut qu'on travaille notre image parce que, en termes de compétences, de valeurs, de travail, nous avons démontré que nous sommes à la hauteur.
Eh bien, c'est sur ce démo d'apaisement et d'espérance que nous allons terminer. Merci Raphaël Abouhem-Aldé. Vous étiez notre grand témoin aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial Afrique et le promoteur du journal panafricain Signature, directeur commercial du journal Afrique de la société Negri et Fils. Merci mille fois d'être venu nous voir et à très bientôt et bonne chance et bonne continuation.
Merci de m'avoir reçu et merci à toute votre équipe.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.